Et oui, comme tous les mercredis en fin d'émission, nous donnons la parole à des jeunes ou à des chercheurs ou chercheuses qui viennent nous expliquer dans un temps limité, en 4 minutes, leur sujet de recherche. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Thibaut Moulin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorant de 4e année en co-tutelle entre l'University of Manchester et la commu Grenoble-Alpes. Pardon. Bienvenue à la recherche. Montre en main, c'est à vous.
Merci. Alors, avant de se pencher sur le cyberespionnage, il convient d'évoquer l'espionnage traditionnel, humain, qui donc repose sur l'envoi d'un agent en territoire étranger. Celui-ci est en fait soumis à un régime binaire, espionnage en temps de guerre, espionnage en temps de paix. En ce qui concerne l'espionnage en temps de guerre, les États s'espionnent depuis des siècles, mais malgré les tensions provoquées par l'espionnage, on n'en trouve de régulation express que dans ce droit de la guerre, et donc les conventions de la Haye et le protocole additionnel 1 aux conventions de Genève. L'espionnage est permis par ces instruments, mais l'espion capturé dans une zone d'opération, un territoire occupé ou contrôlé par l'ennemi, peut être puni. En ce qui concerne ensuite l'espionnage en temps de paix, il est généralement prohibé en droit national, c'est-à-dire que l'État qui capture un espion peut tout à fait le punir en vertu de sa législation pénale. En revanche, en droit international, il n'est ni expressément autorisé, ni prohibé. Cependant, une règle permet de le réguler de façon indirecte. C'est la règle de souveraineté. Celle-ci rend illégal l'envoi d'un agent sur le territoire d'un autre État, sans le consentement de ce dernier. Le problème, c'est que ces règles n'ont vocation à s'appliquer que sur un territoire, pour une intrusion physique. Or, le cyberespionnage est, comme on l'a dit, une activité dématérialisée et ne requiert pas l'envoi d'un agent en territoire étranger ou ennemi. Et donc le but de mes travaux, c'est d'étudier l'impact de cette dématérialisation sur l'application des règles de droit international au cyberespionnage. Et j'en déduis que ni le droit de la guerre, ni la règle de souveraineté ne régulent cette activité de manière satisfaisante. Pourquoi ? Eh bien, en ce qui concerne les conventions de la Haye et le protocole 1, le raisonnement est simple. Les dispositions concernant l'espionnage ne peuvent s'appliquer qu'à un territoire. Elles ne peuvent donc être transposées au cyberespace que si celui-ci est lui-même un territoire. Cependant, les États ne semblent pas considérer le cyberespace comme un territoire, mais comme un cinquième domaine, à côté de la Terre, de la mer, de l'espace aérien et extra-atmosphérique. Et seuls certains d'entre eux reconnaissent que le droit de la guerre est automatiquement transposable. Par conséquent, ces textes semblent, en l'état, inapplicables. En ce qui concerne ensuite la règle de souveraineté, c'est encore plus simple. Une majorité d'États semble considérer que le cyberespionnage ne constitue pas une violation de souveraineté. On a des positions du Canada, une position claire des États-Unis, de la Suisse sur ce point. Ensuite, la Finlande, le Royaume-Uni, la Grèce et l'Espagne semblent parvenir aux mêmes conclusions. Et lorsque victime de cyberespionnage, les États ont rarement recours à ce terme. On lui préfère le terme d'acte inamical, inacceptable, ou alors on refuse tout commentaire. Et ainsi, on a l'exemple de l'Allemagne, de l'Australie, de la France, de l'Indonésie et des États-Unis. Donc, les instruments de régulation traditionnels de l'espionnage volent en éclats avec le cyberespionnage. Il n'est généralement autorisé ou prohibé ni en temps de guerre, ni en temps de paix. Mais en fin de compte, les États se contentent de cette ambiguïté. Cette activité leur paraît nécessaire à la protection de leur sécurité nationale ou leur bien-être économique. Tous s'espionnent et ils veulent en profiter. Si toutefois on accepte qu'il ne peut y avoir qu'un régime fragmenté du cyberespionnage, alors deux corps de règles peuvent être pertinents. On peut avoir la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui garantit l'inviolabilité des correspondances, des documents et archives diplomatiques, et donc on ne pourrait espionner sur ceci, et les droits de l'homme, notamment le droit à la vie privée. Par exemple, si des communications sont interceptées sans motif légitime ou de manière disproportionnée.